envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Et on accueille évidemment dans ce studio comme tous les dimanches matin, Claire, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'air de jeu, une émission qui se veut virevoltante ce matin. On a le plaisir de recevoir Maxime Renaud. Il nous fait l'amitié de venir parler de sa passion, de son métier pour le parcours. Et puis il était l'un des trois romans porteurs de la flamme lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Trois athlètes suisses romands ont incarné ce fameux personnage masqué. Merci d'être avec nous ce matin, Maxime, pour nous parler de parcours, qui est un sport, on peut dire, urbain. Quelle est la définition de ce sport ? C'est quoi exactement ?
Alors, je dirais que c'est vraiment la liberté de bouger dans un milieu urbain et de pratiquer des mouvements acrobatiques à peu près partout où c'est qu'on peut le faire.
Il y a des principaux mouvements, j'imagine.
Alors, ça a évolué. Je dirais que tout début, c'était vraiment des franchissements d'obstacles. Donc, un peu comme le parcours du combattant à l'armée. Du coup, c'est, on va dire, un nom, c'est un saut de chat. C'est un peu le mouvement de base où on met ses mains sur un mur et on passe par-dessus. Plus ça a évolué, plus c'est devenu dans le côté acrobatique. Donc, je dirais que c'est le backflip aussi, un mouvement basique.
On peut dire que ça s'est inspiré un peu de jeux d'enfants. Bah, ça me fait penser un petit peu à Chat-Perché aussi.
C'est inspiré de tellement de choses, du jeu Mario, de la capoeira, de la gymnastique, du breakdance.
Est-ce que c'est un sport qui est récent ou c'est quoi ses origines? Et puis depuis quand on parle du parcours?
Pour moi, l'origine, ça serait Jackie Chan, qui a déjà fait beaucoup de parcours dans ses films. Mais dans les années 2000, c'est David Bell qui a initié ça en France. Son père faisait de la gymnastique et il s'en est inspiré pour le faire à l'extérieur tout seul. Il a appelé ça le parcours. Certaines personnes se sont mis à le faire, donc les Yamakasi qui ont fait le film aussi Yamakasi, qui ont rendu ça totalement beaucoup plus populaire. Et c'est pour ça que maintenant, on entend encore des gens qui disent « vous êtes des Yamakasi », alors que Yamakasi, c'est le nom du groupe et c'est pas du tout le nom du sport. Donc c'est de base français, années 2000.
Et c'est vrai que dans ce sport, eh bien, on utilise tout ce que l'on peut trouver dans une ville, hein, que ce soit des escaliers, des toits, enfin, avec tout, on peut faire une session.
Ouais, c'est exactement ça. On a besoin de chaussures, de vêtements qui sont agréables. Et puis après, juste c'est l'imagination et on peut le faire n'importe où.
Oui, mais un peu de souplesse quand même, il faut, parce qu'au début, ça ne doit quand même pas être évident.
Il ne faut pas grand-chose, parce que ça peut venir au fur et à mesure. Mais c'est toujours cool d'avoir un peu de souplesse, je suis d'accord.
C'est mieux quand même. Mieux.
Si je m'essaye à ça, ça va faire à peu près ce bruit-là.
Ah
trop souple, ça peut être dangereux aussi.
On va passer à notre premier jeu.
L'air de jeu. Le défi.
Le défi photo d'aujourd'hui, eh bien, on va laisser le soin à Maxime. Alors, quel est le thème? Tu vas nous le dévoiler.
Alors, puisqu'on parle du parcours, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'essayer de prendre une photo sur laquelle vous imaginez qu'un traceur pourrait faire une bonne session de parcours. Ce serait l'endroit où c'est qu'il y a le plus de possibilités de...
Alors, pour ceux qui ne connaissent rien du tout, on peut donner juste quand même un peu de détails.
Donc, ça serait... Je sais pas, des bancs, des escaliers...
Des toits.
En fait, du moment où l'architecture est un peu complexe, là, on peut s'amuser. Quand c'est trop plat, il y a un peu rien à faire. Un exemple, la cour de récréation du collège de Numadro, ça va dans tous les sens. Ça monte, ça descend, il y a des murs de partout. Donc ça, c'est un peu le spot où c'est qu'on pourrait passer 4-5 heures facile à s'entraîner dessus.
Et là, une photo de la cour vous suffirait donc ce matin?
Ouais, et du coup, je choisirais la photo sur laquelle je me dis j'irais bien passer une après-midi faire du parcours là-bas.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Et oui, Maxime Renaud est traceur, hein, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui pratiquent ce sport, le parcours. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sport-là plutôt qu'un autre? C'est quoi qui t'a motivé?
J'ai commencé par le breakdance et je trouve que c'est un bon rapport avec le parcours. Et j'ai découvert une vidéo qui mélangeait un peu le breakdance et d'un coup, le mec faisait un saut périlleux arrière. Et j'ai dit à ma mère, j'aimerais trop faire ça. Et du coup, je lui ai dit, est-ce qu'on peut regarder s'il y a des cours qui se font ou comme ça? Et ça n'existait pas du tout à ce moment-là. Et j'avais un ami à moi qui faisait justement courir contre un mur, un pied contre le mur, backflip. Mm-hmm. Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, il faut que tu m'apprennes. Et du coup, j'ai commencé avec... à la Chaux-de-Fonds, il y avait énormément de neige. Donc, on faisait des talus de neige et on sautait la tête la première dans le talus de neige. Et puis, j'ai vu que c'était un sport au fur et à mesure et je me suis entraîné dans des salles, puis je suis tombé là-dedans comme ça.
Et donc maintenant, tu enseignes à Genève. Ouais. Est-ce qu'il y a des avantages dans ce sport? Qu'est-ce qu'on en tire?
Pour moi, il y en a énormément. Principalement, c'est repousser ses limites et aussi la connaissance de son corps, qui est super important. Et j'ai remarqué que quand j'ai commencé le parcours, ça m'a apporté dans tout autre sport, que ce soit les jeux à la gym, les jeux de balle, beaucoup plus agile, beaucoup plus à l'aise sur mes pieds. Même pour la grimpe, pour plein de sports, ça apporte énormément de choses parce qu'on a vraiment la connaissance de tout ce qui se passe dans notre corps. Et puis le travail mental sur le parcours, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi pour de la confiance en moi. Que ça soit pas forcément que pour des sauts, c'est juste pour, sociablement parlant, juste discuter avec des gens, c'était déjà... Il y avait un truc qui s'est mis en plus.
Au-delà du sport, est-ce qu'on peut dire que le parcours est un état d'esprit? Et puis, est-ce qu'il véhicule aussi, je sais pas moi, une certaine philosophie?
Oui, totalement. Bah, surtout par rapport au mental. C'est vraiment ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et quand on monte sur des toits de plus de... Enfin, des toits de où c'est qu'on pourrait mourir si on tombe, bah, c'est vraiment... On est dans un état d'esprit qui est... ouais, c'est une bulle, on est fermé dedans et on n'est que avec nous-mêmes. Ouais, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de choses. Je pourrais pas dire quoi exactement, mais beaucoup de choses.
Mais c'est quand même un peu un sport dangereux, on peut se blesser.
Alors,
faut prendre conscience du danger quand même.
Ouais, c'est un sport extrême. C'est comme le ski freestyle ou le saut en parachute ou le rallye ou n'importe quoi. Donc c'est dangereux, mais on met toutes nos chances de nos côtés pour être sûr de ce qu'on fait. Il y a énormément d'entraînement avant de se lancer sur des sauts très dangereux. Et puis, il ne faut pas croire que chaque session qu'on fait de parcours, on risque nos vies. On est souvent au sol et de temps en temps on monte. Ça dépend des gens, il y en a certains qui adorent être sur les toits. Oui, c'est un sport dangereux, mais comme plein d'autres sports.
Voilà, il faut l'apprivoiser,
exactement.
On va dire.
Il ne faut pas aller trop vite.
L'air de jeu jusqu'à midi. Avec Claire et Florian.
On revient dans l'air de jeu ce matin pour nous parler, on va pas dire ça de la haute voltige, mais parfois ça peut l'être.
Ça ouais. Peut l'être.
Mais, oui, quand même, hein, parce que le parcours, c'est un sport urbain qui a les vitesses, acrobaties. Il faut franchir des obstacles. Il y a des mouvements hein, aussi rapides, il faut être agile. Et on a le plaisir de parler de parcours avec vous, Maxime Renaud, qui est traceur. Vous enseignez donc le parcours. On peut dire que de cette passion, vous en avez fait votre métier, en fait.
Exactement. C'était un peu mon but, pas directement quand j'ai commencé, mais très rapidement, quoi. J'ai vu quelle place ça a pris dans ma vie et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose.
Alors, on va voir un petit peu maintenant comment est-ce que tu te prépares mentalement, physiquement pour une session, par exemple, parce que tu en fais toujours des sessions, même si tu enseignes.
Oui, ça dépend à quoi ressemble la session. Si c'est une session normale où on s'entraîne au sol, c'est un bon échauffement du corps pour réveiller le corps. Et on fait ce qui vient dans notre tête, donc il n'y a pas trop de préparation à l'avance.
Ah, on ne fait pas un schéma des figures de ce qu'on va faire, c'est vraiment instantané?
Oui, plus instantané, mais ça arrive qu'on repère des sauts qui sont très engagés, sur lesquels il nous faut du temps pour vraiment examiner si on est capable de le faire et de quelle façon on va le faire. Donc ça m'arrive de voir un saut et d'y penser pendant bien 3 semaines. Enfin, là, je parle des sauts rares, des gros sauts qui sont très engagés. Donc c'est beaucoup de visualisation. J'y retourne et retourne pour voir chaque fois le même saut. Ça me prend peut-être 45 minutes, une heure juste devant le saut avant de le faire. C'est vraiment de la préparation qui demande beaucoup de concentration et d'énergie. Mais ça dépend de ce qu'on fait.
On fait quand même quelques bosses quand on rate, j'imagine.
Alors, les tibias, souvent. Parce que quand on saute sur un mur et qu'il y a un pied qui glisse, c'est le tibia qui va contre. Donc oui, on se fait quelques bosses. Et je pense que quelque chose qui est vraiment important, c'est d'apprendre à tomber. Et du coup, le breakdance m'a beaucoup apporté ce contact au sol qui m'a façonné ma façon de bouger.
Et pour la tenue, est-ce qu'il y a une tenue adéquate? Est-ce qu'on met aussi des protections?
Alors, on ne met pas de protection parce que le but, c'est vraiment d'être soi-même avec son corps. Ouais, je dirais que c'est un peu contre la culture du parcours de mettre des protections. Ce qui est important, c'est de sentir à l'aise dans les habits. Souvent, vous verrez des traceurs qui portent des habits larges. Souvent, on aime bien les habits larges et des bonnes chaussures qui sont souples, mais en même temps qui ont pas mal d'amortis dessous.
Mais justement, on t'a demandé de prendre quelque chose et tu as apporté tes baskets. C'était tes premières baskets?
Alors, c'est pas mes premières, mais un truc qui est marrant, c'est que je garde souvent mes chaussures trouées parce qu'elle me rappelle des sauts que j'ai faits, des moments que j'ai passés, peu importe, mais j'aime bien les garder. Et c'est quelque chose que ma mère, elle comprenait pas trop, mais elle en a gardé et c'est grâce à elle que j'ai pu en ramener. Donc merci maman.
Ces baskets, est-ce qu'elles ont une particularité ? Est-ce qu'elles sont faites pour justement le parcours ou pas du tout ? On peut prendre n'importe quelle basket ?
Alors, il y a une seule marque qui fait des chaussures de parcours, ça s'appelle Holo. Et ça a bien évolué, au début elles étaient très lourdes, maintenant elles commencent à devenir bien. C'est jamais des baskets pour le parcours. On va un peu se rapprocher des baskets que les skaters utilisent, mais du coup c'est plutôt comment nous on se sent dedans. Il y a plein de gens qui utilisent différentes marques. Moi j'adore les Vans. Les Vans, c'est vraiment des chaussures qui ont tout ce qu'il faut.
Il faut que ce soit des baskets qui puissent un petit peu amortir aussi lorsque l'on arrive au sol.
Alors, ce qui est important, c'est l'amorti au niveau des talons et puis la souplesse au niveau des pointes de pied. Parce que, par exemple, quand on saute sur une barre, il faudrait que notre pied prenne un peu la forme de la barre. Tandis que si on a des chaussures qui sont très rigides, très droits, on va glisser directement. Et avec un bon grip dessous, donc un peu de relief dessous pour pouvoir crocher sur les murs.
Et elles ont fait quoi comme parcours, ces baskets-là ?
Je crois que c'est un peu les baskets que j'utilisais quand j'avais 17-18 ans. Ouais, elles ont été beaucoup utilisées à la Chaux-de-Fonds d'ailleurs, sur les murs de la Chaux-de-Fonds.
Talons aiguilles non recommandés, j'imagine.
Non recommandés, mais dernièrement, j'ai vu une vidéo de justement Lilou Ruel qui a fait le porteur de flamme avec nous, qui a fait un backflip en talons aiguilles, assez impressionnant, mais c'est pas recommandé.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Maxime Renaud est toujours avec nous. Il nous fait l'amitié de partager avec nous eh bien, sa passion et son métier pour le parcours. À quel âge est-ce qu'on peut commencer et de quelle façon ?
Je dirais que l'âge pour prendre un cours de parcours, ça serait 6-7 ans parce qu'on a déjà un peu l'envie d'écouter et d'apprendre comme ça. Mais on pratique dès qu'on arrive sur Terre, en fait, on grimpe, on marche, on apprend toujours à se déplacer. Quand on est petit, on monte dans un arbre, on passe par-dessus des barrières, donc ça ressemble un peu au parcours. Mais 6-7 ans, je donne des cours à des enfants de 7 ans. Ben, on apprend déjà juste les bases, apprendre à sauter, à atterrir, à rouler. Vraiment des bases.
C'est douces. Un peu comme de la gymnastique.
Pour moi, c'est de la gymnastique avec toute la liberté. Il n'y a pas de règles, pas de pointe de pied. Pas d'axe de saut périlleux précis. Si tu as envie de t'inspirer de la danse et mettre un petit mouvement de danse au milieu de ton parcours, tu le fais. C'est vraiment cette liberté qui est intéressante dans le sport.
Bah, ces derniers jours, les seniors ont pu s'essayer sur la neige ou la glace.
Ouais.
Hein, ça, c'est aussi du parcours. Ça fait un peu plus mal. Mais...
Parcours du combattant. Tant, là.
Ouais, ça...
le parcours peut se pratiquer de son plus jeune âge. Est-ce qu'on peut pratiquer ce sport urbain par tous les temps ou il y a quand même une saison qui est plus propice à une autre ?
Je dirais le mieux, c'est printemps-automne. Parce que les chaleurs sont pas trop hautes ni trop basses. Tout dépend de ta motivation. Si tu as la motivation d'aller t'entraîner sous la pluie, tu peux y aller. Faut juste faire attention parce que
ça glisse.
Ça peut glisser. Mais tu peux utiliser justement cette glissade pour faire un truc qui te plaît. Donc, utiliser la neige, on l'utilise. Je dirais que c'est un peu par tous les temps, mais le temps favorable, c'est une température de 20 degrés avec un petit peu de soleil et puis c'est parfait.
Et un vieux tas de neige encore qui vient bien dur avec le temps.
Ouais.
Alors finalement, chaque traceur trace son parcours. Il imagine beaucoup de choses aussi. Il n'y a pas un schéma type.
Le jour d'aujourd'hui, non. Je dirais vraiment que chaque personne a sa façon de faire. Ils peuvent s'inspirer de certaines choses, mais il n'y a aucune règle.
Est-ce que c'est un sport, le parcours, qui est également exercé par les filles ? Est-ce que les filles, ça donne aussi à ce genre d'activité ?
Alors, de plus en plus. Et puis, je pense que c'est un peu comme dans tous les sports. Pour moi, il y a autant pour les filles que pour les hommes. C'est un sport qui est pour tout le monde, même pour les chèvres.
Est-ce que toi, Maxime, il y a des endroits où tu apprécies vraiment de faire une session ? T'es quoi, toi, les éléments que tu aimes ?
Alors si je reste sur la Chaux-de-Fonds pour avoir quelques images, il y a un sport qu'on s'inspire beaucoup, c'est le tricking. C'est comme de la gym, c'est sur des praticables. Et en gros, c'est que des mouvements au sol. Il n'y a pas d'obstacle. Et par exemple, le Carillon à la Chaux-de-Fonds, c'est un endroit où on adore avec mes amis s'entraîner aux tricks qu'on fait au sol. Et après...
Après, on sonne les cloches.
Après, vraiment, le spot qui est vraiment cool, c'est la cour de Numadro. C'est, à la Chaux-de-Fonds, c'est vraiment un endroit qui a tout. Il a des petits sauts pour s'échauffer, il a des grands sauts, il a vraiment tout ce qu'il faut. Donc moi, je dis du moment où l'architecture est intéressante, quelque chose qui est vraiment un peu, quand tu le regardes, tu te dis c'est bizarre. Là, c'est vraiment le spot qui me plaira.
Mais est-ce que tu dois demander des autorisations ou est-ce qu'on peut pratiquer le parcours n'importe où?
On ne demande pas forcément d'autorisation. Après, on est toujours très à l'écoute des gens parce que c'est vrai que parfois, on va dans des propriétés privées. Mais si on peut leur demander, on leur demande. S'il y a une interaction avec nous, on reste très poli. S'ils nous demandent de partir, on part, on leur explique ce qu'on fait. Le but, c'est de le faire un peu partout, mais on fait quand même attention à ne pas déranger ni à casser quoi que ce soit.
Voilà, d'être respectueux envers tout ce que vous utilisez.
Exactement, c'est le plus important. Mais pour des tournages ou des choses comme ça, on va peut-être demander des autorisations. Mais pour des entraînements quotidiens, on ne demande pas forcément.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Ben oui, en l'occurrence, le parcours, c'est également un sport où on prend beaucoup l'air, puisque ça se passe dehors. C'est compliqué de le faire dans un appartement.
Ouais, dans un appartement, c'est compliqué, à part s'il est très grand.
Maxime Renaud, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le parcours? Est-ce qu'on peut s'y lancer à tout âge ou il y a quand même un âge limite? Je pense que nous, avec Florian, on a un petit peu...
Nous, on est périmés.
Oui, on est périmés, nous.
Non, jamais. Il y a des cours qui sont ouverts aux seniors, mais c'est très récent. Du coup, c'est jamais trop tard. On peut toujours faire, mais de sa façon.
Oui, on n'est pas obligé de monter sur
ça un... Ça ne va pas être le même parcours que nous. Un conseil, c'est, je le dis souvent, mais de s'amuser dans ce qu'on fait. Donc, si t'es quelqu'un qui aime sauter, qui aime courir, juste amuse-toi et puis trouve...
Claire, elle aime passer la tondeuse chez elle. C'est un peu plus calme, c'est plat. Ça... Puis la tondeuse, elle avance toute seule.
Alors, c'est pas la même chose. Ouais.
Non, c'est pas la même chose. Mais j'imagine que le parcours pour un enfant un petit peu, comme on dit, hyperactif, ça peut être une bonne alternative, non?
C'est même très très bien et il y en a beaucoup que je connais qui sont hyperactifs et qui canalisent par le sport. Et justement, je pense que le parcours peut amener beaucoup de bienfaits à ces personnes, surtout pour tout ce côté mental justement, de prendre le temps de se concentrer et ensuite d'envoyer la patate. Donc
Ouais, ça peut être un bon moyen de le canaliser, comme tu le disais. À quoi est-ce qu'on reconnaît un bon traceur? C'est quoi pour être un bon traceur?
Pour moi, c'est quelqu'un... Enfin, c'est pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, qui va chercher des choses nouvelles, qui va pas rester sur les mouvements basiques, mais qui va nourrir le sport en apportant de nouvelles choses. Et après, il y a ceux qui sont dans la performance. C'est ceux qui font le plus de backflips possible, le plus de vrilles possible. Et
avec le moins de bleu possible.
Avec le moins de bleu, toujours. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très, très impressionnant. Donc, on le voit direct quand quelqu'un maîtrise le truc.
Est-ce que le parcours pourrait éventuellement se faire dans la nature, en forêt, par exemple, où il faut vraiment que ce soit... oui, puisque c'est un sport urbain, que ce soit en zone urbaine.
Vraiment partout.
Est-ce que tu as déjà essayé de faire un parcours en pleine nature?
Ouais, alors pas souvent, mais c'est vrai que les arbres, il y a des arbres qui sont hyper intéressants pour s'entraîner dessus. Et typiquement en France, il y a un mec qui s'appelle Léo Urban. Et c'est un peu sa marque de fabrique, c'est l'état d'esprit primal. Et c'est un gars qui est dans la forêt, maintenant il va dans la jungle, il passe des mois dans la jungle.
Mais c'est le Tarzan moderne.
C'est exactement ça. Mais c'est hyper impressionnant parce que il est à pieds nus, quand il se déplace, les épaules bougent comme un guépard, il s'inspire des animaux. Faudrait aller voir une vidéo de lui, Léo Urban sur YouTube, c'est hyper impressionnant. Mais du coup, c'est encore une autre facette du parcours. En fait, il y a tellement de facettes différentes sur le parcours.
Et, ouais. Et toi, Maxime, ce serait quoi ton plus grand rêve en tant que traceur?
Waouh.
Est-ce que tu en as un déjà?
Ouais, je dirais de continuer à m'épanouir et puis toujours apprendre des autres, s'inspirer.
Est-ce que tu t'inspires aussi pour certaines figures, certaines acrobaties d'autres traceurs célèbres, par exemple?
Ah oui, totalement, totalement. Et d'ailleurs, merci Instagram d'exister parce que c'est vraiment un partage du monde entier qui nous permet de voir tellement plus de choses que, par exemple, ceux qui ont fondé un peu le sport n'avaient pas du tout toute cette vision du sport, alors que ceux qui commencent maintenant, ils ont un catalogue de sauts périlleux interminable. Ils peuvent vraiment voir tout ce qui se passe et apprendre très, très vite. Donc oui, je m'inspire beaucoup d'autres personnes, mais je m'inspire aussi des animés, des mangas, de tellement de choses. Tout ce qui m'inspire, je le prends.
Les skateboarders font partie aussi un petit peu du parcours avec un skateboard.
Bah en vrai ça ressemble pas mal parce que bah on est un peu les deux disciplines, c'est on se promène dans la rue, on cherche le petit spot secret pour faire son tricks. Je dirais que les skaters c'est encore autre chose parce qu'ils ont un objet avec eux. Nous c'est vraiment que le corps et le skate ça se rapproche un peu dans le côté où on peut se prendre des belles chutes et un peu dans l'état d'esprit d'être confiant, de savoir ce qu'on peut faire et puis de donner quoi.
D'un côté comme de l'autre, c'est tous des casse-coups.
C'est ça. Il faut être un peu casse-cou.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Toujours avec notre invité Maxime Renaud, qui est traceur et qui enseigne le parcours. Il a été aussi l'un des personnages mystères, porteur de la flamme olympique, et il a parcouru la toit de Paris à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO. C'était en juillet dernier. On a toujours pensé qu'il n'y avait qu'un personnage mystère, et finalement, on a découvert qu'il y en avait plusieurs. Et donc, trois Suisses romans. Alors, il y a toi, bien sûr, Maxime. Qui sont les deux autres?
Alors, il s'agit de Guillaume Larrazabal. C'est un traceur qui pratique depuis plus de 15 ans. Et l'autre personne, c'est Caril Kortmoller, qui est devenu champion du monde de parcours en vitesse la semaine passée au Japon. Donc, deux très bons amis à moi que j'ai rencontrés il y a une dizaine d'années. Avec qui je m'entraîne assez souvent.
Donc en parcours, il y a aussi des...
Compétitions ?
Voilà, des compétitions.
Ouais, alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je m'y connais moyennement. Ce n'est pas quelque chose qui m'inspire énormément, les compétitions, surtout celles de maintenant, parce qu'en très gros, la Fédération Internationale de Gymnastique a racheté le parcours. C'est un peu une façon de juger qui n'est pas la mienne. Ça ressemble presque à la gym. Tel tricks vaut tel point. Mais si je le fais à telle hauteur, ça change pas. Donc, on perd un peu l'esprit du parcours. Par contre, les compétitions qui sont bien, c'est les speedruns. C'est très simple, c'est point A, point B, être le plus rapide. Donc, c'est le chrono qui juge. Il n'y a pas photo, si t'es plus rapide, t'es plus rapide.
Pour en revenir donc à ce personnage que tu as incarné avec Caril et Guillaume, comment vous avez été sélectionné?
Pour ma part, c'est un vidéaste, photographe, chorégraphe qui habite à Paris, qui s'appelle Zenzel, qui travaille beaucoup avec le parcours, dans le domaine du parcours, notamment avec la French Freerun Family qui n'existe plus trop en ce moment. Il me suit sur Instagram depuis un bon moment, je le suis aussi, on regarde un peu ce qu'on fait. Et il a décidé de me faire confiance, dans 15 jours il m'a appelé, il m'a dit « est-ce que t'es libre en juillet ?» sans me dire ce qui se passait. Et comme je connaissais son travail et qu'il a déjà travaillé avec Caril et Guillaume, j'ai foncé tête baissée, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye, donc voilà.
Il a pris le TGV et il a pris le métro.
Et je suis arrivé sur les toits de Paris.
Et puis, Caril et Guillaume ont été contactés de la même façon ou c'est toi qui les as proposés?
Non, alors il a vraiment contacté. En fait, Zenzel est ami avec quasi les 9. Je crois que je suis le seul à avoir jamais travaillé avec lui. Mais comme j'ai dit avant, on se suit sur les réseaux. Les autres, c'était des vrais potes avec Zenzel. Je suis un peu le pion à part qui a eu la chance de pouvoir y participer aussi.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Jusqu'à midi, on parle de ce sport qui s'appelle le parcours, où c'est qu'on fait des tas de choses, on se balade avec des flammes, rubriquet en fait.
Et oui, puisque notre invité Maxime Renaud a eu la chance, avec deux autres romans, à pouvoir porter cette fameuse flamme olympique qui a traversé Paris. C'est vrai que c'était vraiment une belle cérémonie d'ouverture, assez moderne. Et puis, ce personnage mystère a vraiment attiré l'attention. Et enfin, on a pu avoir des visages. Enfin, il y avait un seul que l'on a pu découvrir par la suite. Mais est-ce que c'est resté un petit peu secret? On le sait pourquoi?
En gros, je pense qu'il y a eu une mauvaise compréhension de la part d'un des athlètes qui a du coup dévoilé son identité assez rapidement. Et faut bien imaginer qu'en 3 minutes, ça a fait le tour du
avec
monde.
Avec les réseaux sociaux.
Donc ça allait très très vite et ensuite on a tous discuté ensemble, on a mis les choses au clair et puis ça s'est passé de la meilleure manière.
Mais, je trouve finalement c'est bien aussi,
ouais.
Vous êtes aussi récompensé, je trouve que c'est pas mal. Donc cette flamme, elle est partie d'Austerlitz pour aller au Trocadéro avec donc ce fameux personnage mystérieux, avec les deux autres, Caril et Guillaume. Vous avez tous les trois... parcouru les toits de Paris. Pour toi, quel a été le parcours ? À quel moment est-ce qu'on t'a vu, Maxime ?
Alors, j'étais le personnage qui courait sur le toit du musée d'Orsay. Juste après, c'était les passages en bateau des pays, avec une transition sur le toit du musée d'Orsay. Ouais, c'était ça mon tableau, c'était vraiment que le musée d'Orsay.
Et est-ce que tu as pu visiter ce musée ?
J'ai eu la chance de le visiter avec le mec le plus haut placé du musée d'Orsay, qui nous a fait la visite. Et du coup, c'était super impressionnant. Le plus impressionnant, c'était la toiture, puisque je suis allé sur le toit. Mm-hmm. J'ai vu toute l'infrastructure du toit en bois ancien. Donc, c'était assez impressionnant de se retrouver là et d'avoir la chance aussi de monter sur ce toit, parce qu'on a une vue vraiment, vraiment cool.
Mais là, il ne faut pas avoir le vertige quand même.
Ça va, sur ce toit, ça va, parce qu'il est très, très grand. Et puis, on ne va pas chercher la chute, on ne va pas au bord des toits. On est principalement sur le centre du toit.
Ben, dans les photos que tu nous as fait parvenir, que les auditeurs verront cet après-midi sur notre galerie photo, ben, on te voit justement habillé hein, avec le costume de ce personnage mystérieux avec la flamme olympique. Et puis, il y a aussi une lanterne. Elle était où, cette lanterne, et c'est quoi ?
Alors, la lanterne, c'est la flamme olympique, la vraie, qui vient d'Athènes. Donc c'est avec cette lanterne qu'on allume les torches, mais c'est bien plus compliqué que ce que je vais expliquer là, parce que j'ai un peu discuté avec les gardiens de la flamme, on appelle, et je crois que c'est tous des policiers ou des militaires qui s'occupent de ça, et ils nous ont expliqué qu'ils doivent la garder allumée tout le temps. Donc que ça soit dans le bus, dans l'hôtel, n'importe, c'est tout le temps allumé avec une petite odeur de... Je pourrais pas dire quelle odeur c'est, mais il y a toujours une odeur qui est accompagnée. Ouais, il y a plein de techniques, si jamais elle s'éteint... Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, c'était assez cool de l'avoir en vrai, cette petite lanterne. Elle était belle.
Et elle était justement au musée d'Orsay. Photo que tu nous as...
C'est la photo, voilà. Elle était au musée d'Orsay. Du coup, beaucoup de gens demandaient de prendre une photo avec la lanterne et tout. Donc, c'était un peu la mascotte du musée.
L'air de jeu.
Nous, on a la chance de voir les photos avant les autres ici dans les studios. Elle est mignonne, cette petite lanterne avec cette petite flamme qui est allumée. Ça garde quand même un certain mythe.
Exactement. Tout comme le personnage masqué hein, qui a porté cette flamme olympique d'Austerlitz au Trocadéro, dont Maxime Renaud, notre invité, a eu la chance d'incarner. Il y avait, comme tu nous l'as dit, 9 personnes. Est-ce qu'on peut un petit peu les présenter ?
Totalement. Du coup, les 3 romans, comme j'ai dit, moi, Caryl Kortmøller, Guillaume Larrazabal. Ensuite, il y avait une fille qui est hyper inspirante, qui est dans le top mondial des traceurs. C'est Lilou Ruel, Simon Noguera. C'est un peu le ninja des toits parisiens. C'est un peu sa marque de fabrique.
C'est le dernier qui a apporté la flamme et qui l'a remise à Zinedine Zidane. C'est pas lui ?
Non, lui, d'accord. Justement, c'est Augustin, un traceur, mais un rappeur aussi. Et il est fan de foot. Du coup, quel bonheur de donner la flamme à Zidane quand il était en coulisses avec lui. C'était incroyable. Andrea Catosi, qui est un danseur-traceur. Maxence de Schroeder et Johan Tonnoir, qui font partie aussi de la French Freedom Family. Simon Noguera, justement, c'est le ninja des toits de Paris, un peu. Voilà. C'est sa marque de fabrique.
D'accord.
Hyper impressionnant.
Alors... Il évite surtout les bouchons de Paris.
Alors, ça, c'est sûr.
Mais c'est pas mal, hein, parler, toi.
Oui.
Explique-nous maintenant, Maxime, comment c'est passé ? Parce qu'il y a eu des entraînements, j'imagine. Les gens qui ont incarné ce personnage mystère se sont retrouvés bien avant, au mois de juin, juillet, ou c'était quand ?
Ça s'est fait assez rapidement. On est arrivé 2 semaines avant. Tout le monde est arrivé 2 semaines avant. Et en fait, les entraînements dépendaient de ce qu'on avait à faire. Moi, qui étais sur un toit, qui étais seul, sans figurant, c'était très simple à mettre en place. Du coup, j'ai eu 3 répétitions qui durent... 2 heures de temps, donc c'est assez rapide. Le but, c'était d'être discret, donc de ne pas le faire à midi ou à 14h.
Mais c'est ça, c'est qu'il faut encore garder justement ce mystère.
Oui, justement, parce qu'il y a plein de fenêtres qui donnent sur le toit.
Mm-hmm.
Donc, ce que je faisais, ce qu'on a à peu près tous fait, c'est qu'on prenait une grosse bouteille d'eau de 1 litre pour s'imaginer ce que ça faisait de porter la flamme, parce que ça fait à peu près ce poids-là. Donc, on ne pouvait pas monter avec juste la torche dans les mains pour être le plus discret. Donc, ça m'a fait 3 entraînements de 2 heures à peu près. Caryl, lui, a fait des entraînements de journée complète, qui était à Disneyland Paris pour vraiment être totalement caché, parce qu'il était avec 300 danseurs. Donc, il n'était pas tout seul, il devait se coordonner avec tout le monde. Donc, c'était un peu plus de travail pour lui. Dans ce qu'on a fait, c'était dans la performance, c'était assez simple comparé à ce qu'on fait d'habitude.
Il y a un message qui vient d'arriver pour vous, de la part de Bertrand, qui vous demande si vous avez pu garder une flamme en souvenir.
Malheureusement pas. Mais il y avait, j'ai vu qu'il y avait des cachettes de mini flammes olympiques avec des QR codes dedans qu'on pouvait trouver à Paris. Mais quand j'ai vu ça, j'étais dans le train de retour en Suisse et j'aurais vachement aimé avoir ce petit souvenir. Mais pas de flammes, pas de costume, que des souvenirs dans la tête.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Et jusqu'à midi, on parle de ce fameux sport que Lucie ne pratique pas, j'imagine. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Vous avez l'habitude de sauter de balcon en balcon, dans la cour, de faire ce genre de choses-là ?
C'est un peu trop haut.
Est-ce que vous faisiez de la gymnastique
En étant jeune, oui.
Voilà, c'est bien. Hein.
J'ai été monitrice de gym.
Ah ben voilà.
Voilà.
Comme quoi, hein. Et oui. Puis les Jeux Olympiques, est-ce que vous avez regardé la cérémonie d'ouverture ?
Oui.
C'était quand même assez incroyable. Hein,
oui.
C'était le fil rouge, hein, ce personnage masqué. Donc, vous avez choisi votre jeu, ma chère Lucie, c'est celui-ci.
L'air de jeu, le portrait chinois.
Sur la base de « Si j'étais », il faudra découvrir une personne. C'est hyper facile. Est-ce que vous êtes prête ?
Oui.
Si j'étais un pays, je serais le Canada. Si j'étais un événement, je serais les JO de Paris. Si j'étais une chanson, je serais l'hymne à l'amour. Qui est-ce ?
Céline Dion.
Eh oui, bravo. C'est vrai qu'elle l'a interprété admirablement bien, cette chanson.
Ouais.
Ça nous a donné la chair de poule.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous avez gagné une flamme olympique.
Oh, c'est formidable.
Oui, vous avez gagné aussi. Ben, peut-être que Maxime viendra une fois chez vous faire un parcours.
Oui, pourquoi pas. Si les balcons sont hauts.
Voilà, puis comme ça...
Oui, ils sont très hauts.
Et puis comme ça, tu pourras prendre aussi des idées de... Puisqu'elle était monitrice de gym.
Ouais, totalement.
Le jour où vous avez un mec sur votre balcon, vous ne posez pas trop de questions. Hein.
Ce sera moi.
Oui, d'accord.
Merci Lucie.
Bonne suite de dimanche. Merci Lucie.
Ouais, merci.
Au revoir.
Au revoir.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Toujours avec Maxime Renaud qui nous fait l'amitié de nous présenter eh bien, son sport, le parcours. Sport qui l'a amené à incarner le personnage mystère, porteur de la flamme olympique au dernier JO de Paris, donc en juillet dernier. J'imagine que tu as pu quand même t'entraîner avec le costume. En plus, masqué, c'est difficile pour toi ?
Alors, le costume, on l'a essayé une seule fois, mais sans faire de mouvement dedans. C'était un mois avant les JO. On est allé une fois à Paris pour essayer le costume. Et on a remarqué que la visibilité était un peu compliquée, mais on savait que dans le corps, le costume, ça n'allait pas nous déranger pour ce qu'on allait faire. Ce n'est pas le costume que je mettrais pour aller m'entraîner tous les jours, mais ça ne nous dérangeait pas trop. Du coup, durant les entraînements, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis le masque. Je n'avais pas le droit de montrer le costume aux belles fenêtres qui pouvaient voir le toit du musée d'Orsay. Donc, c'était le jour même où j'ai mis tout le costume en entier. Puis ça s'est bien passé, mais comme j'ai dit, c'est pour ce qu'on a fait, ça allait, mais c'est pas le costume que je mettrais tous les jours.
J'imagine qu'avec le masque, le champ de vision, il est pas le même.
Bah du coup, c'est un peu comme un masque d'escrime, avec une petite couche qui brille. Donc s'il y a du soleil, et il n'y en avait pas justement à la cérémonie, ce qui m'a pas mal aidé, s'il y a du soleil, ça reflète un peu, ça scintille, enfin je sais pas comment expliquer, ça fait un peu de la brillance. Et il y a cette capuche qui vient un peu fermer les angles. Pour le style qu'on avait, c'était trop bien.
Quand toi, tu étais sur ce fameux toit du musée d'Orsay, il pleuvait. Ça a été difficile, j'imagine.
Alors, c'était vraiment le plus stressant parce qu'on savait qu'il allait pleuvoir et durant l'après-midi, il a commencé à pleuvoir un tout petit peu. Je suis allé faire un tour sur le toit et quand j'ai mis mon premier pied, j'ai glissé. Je suis tombé sur le côté et je me suis dit... J'ai pas le droit de faire vivre ça au personnage mythique que j'incarnais. Donc, quand il a vraiment plu très fort le soir, j'ai choisi l'après-midi de nettoyer le toit avec du coca et d'enlever toute la poussière parce qu'il y a beaucoup de poussière. Et le soir, quand je suis arrivé, donc 5 minutes avant mon départ, je savais pas si j'allais soit le faire, soit courir, soit marcher. J'avais 3 possibilités. Et du coup, il restait 2 minutes et au Tokiwoki, on me demandait « Tu vas le faire, tu vas pas le faire, tu vas le faire, tu vas pas le faire ?» Et moi, je faisais que des allers-retours en me disant bah, ça va le faire, mais j'avais toujours un petit pied qui faisait... Et au final, je me suis dit, ben, c'est qu'une fois dans ta vie, fonce. T'as pas le droit de tomber, tu tombes pas. Et puis ça s'est passé très bien. Mais c'est ce qui m'a fait le plus stressé, ouais. C'était
et c'est là que le mental est rentré en ligne de compte, je pense.
Pour le coup, ouais. C'est aussi un peu dommage parce que j'avais un petit saut à faire à la fin, mais qui donnait assez bien avec le personnage, que là, j'ai pas pu faire parce que c'était, j'atterrissais sur le bord de toit et c'était penché. Donc avec l'eau, quand c'est penché, tu glisses encore plus vite. Donc j'ai pas fait ce saut, mais ouais, le mental, c'était un autre style de mental, mais il y avait besoin d'être sûr de soi, quoi.
Mais là, chaque traceur pouvait aller à sa guise où on vous a imposé un tracé ou des figures.
C'était très guidé. Je connais pas l'expérience de tout le monde. On en a pas assez parlé. Par exemple, il y a Andrea Catosi qui a fait sur le tapis rouge. Il a fait une série d'acrobaties. Mm-hmm. Je pense que c'est lui qui les a choisis. Mais on était quand même pas mal guidé sur les timings, la trajectoire. Et aussi, ceux qui nous filmaient avaient un cadre précis qu'on pouvait pas sortir du cadre. Donc, c'était plutôt guidé, ouais.
10h, midi, envie de prendre l'air. L'air de jeu.
On a Anne-France qui s'est fait surprendre sur un balcon à Marais en train d'observer les voisins avec des jumelles.
Bonjour.
Exact.
Bonjour Anne-France.
Bonjour Claire.
Comment allez-vous?
Mais bien et vous?
Très très bien. Et vous, c'est quoi votre sport? Vous en avez eu fait en étant plus jeune?
Oui, du karaté.
Ah! Est-ce que, Maxime, est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer dans le parcours utiliser des gestes de karaté?
Bah oui, mais vraiment, comme j'ai dit, on peut s'inspirer de vraiment tout. Donc le karaté, il y a plein de mouvements qu'on peut utiliser, qu'on va peut-être un peu modifier, mais on peut s'en inspirer, clairement.
Ben voilà. Et les Jeux Olympiques, est-ce que vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture, Anne-France?
Oui, bien sûr.
C'était assez impressionnant, hein, ce mystérieux personnage masqué. Hein, qui traversait comme ça tout Paris d'Austerlitz au Trocadéro avec la flamme.
Oui, quand même.
Donc, vous allez nous décrire la photo que vous aviez envoyée.
Alors, elle se trouve... c'est une photo qui a été prise devant la maison.
C'est chez
vous ? À Marin. Oui, tout à fait. Il y a des petits balcons, il y a des gros arbres, dont un arbre qui doit être au moins centenaire.
Eh bien justement, on va demander maintenant à Maxime, notre invité. Maxime, pourquoi tu as choisi cette photo-là?
Je l'ai choisi parce qu'il y a quelque chose qu'on fait dans le parcours où c'est qu'on regarde beaucoup aussi le côté esthétique de l'endroit. Et je trouvais que cette petite entrée de maison était vraiment très très cool. Et je pense que au-delà de la performance qu'on peut faire là-dessus, on peut vraiment faire une vidéo qui est courte mais sympa. Donc c'est quelque chose que je pourrais m'inspirer de plus par rapport à la beauté de l'endroit, ses petites spécificités, que dans un long entraînement. Mais c'est celui qui m'a le plus parlé, en tout cas.
Avec l'arbre, la liane, Tarzan.
Ouais, il y a plein de trucs. Même l'escalier avec la petite barrière. Et puis, il y a de quoi faire.
Puis après, il y a même de quoi faire la lessive, parce qu'on voit votre lave-linge, Anne-France.
Et bien, quand je serai tombée dans la terre, je pourrai nettoyer mes habits là-bas.
Et c'est vrai que finalement, il faut aussi ce côté esthétique lorsque l'on fait, parce que toi, tu fais aussi beaucoup de vidéos. D'ailleurs, on donnera l'Instagram de Maxime, mais c'est vrai qu'il faut aussi que ce soit joli.
Mais c'est pas pour tout le monde. Il y en a vraiment qui mettent plus en avant la performance, le mouvement. Et il y a ce côté un peu artistique qu'on cherche... Ouais, de l'architecture qui est intéressante, jolie, où c'est qu'on pourrait faire quelque chose de simple devant, mais qui a un lien avec l'environnement.
Mais en tout cas, merci à vous, Anne-France, de nous avoir envoyé cette photo.
Mais de rien.
Merci et belle journée à vous.
Merci, c'est gentil. Au revoir, Claire.
Au revoir, merci.
Florian. Au revoir.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
J'imagine, Maxime, que pour toi, ça a été quand même un petit peu émouvant que de porter cette flamme olympique.
C'était dur à réaliser réellement ce qui était en train de se passer. C'est vraiment après coup qu'on a vu l'impact qu'il y a eu sur le personnage. Je me demande si je ferai plus grand que ça. Donc,
une belle expérience en tout cas.
Une expérience inoubliable, ça c'est sûr. Que du positif.
Qu'est-ce que tu vas garder en souvenir de cette prestation?
Moi, je pense que c'est vraiment le moment où ils ont allumé la flamme, enfin la torche que j'avais quand ils l'ont allumée. Je pense que le souvenir, il va rester un moment. Quand je la portais et que j'attendais, j'ai attendu peut-être 1 minute 40 avec, j'avais l'impression qu'elle devenait super lourde, alors qu'elle pèse 1,5 kg. J'avais l'impression qu'elle devenait mais bon, plus en bras, plus lourde.
Ça peut se comprendre. En tout cas, Maxi, merci pour ta présence ici ce matin dans ce studio.
Merci. Et puis
il va nous faire une sortie à la Spider-Man du studio. Là.
Ouais, je sors par la fenêtre.
On va peut-être donner ton compte Instagram pour les personnes qui ont envie de te suivre.
Yes, c'est tiré du bas Max Renault.